Et main d'or. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant.
Je voudrais travailler encore,
forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Travailler encore,
acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce lamis noir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré, là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
Bernard Lavillier pour une version des Mains d'Or en live avec Balmino Medellin. pour illustrer un peu musicalement la question qu'on a entendue dans un documentaire au préalable, un documentaire réalisé par Sarah Fautré et Marc Monaco et produit par Bruit ASBL, un documentaire qui raconte donc la délocalisation d'une usine initialement à Seraing qui part en Chine. Et alors on a de la chance parce que pour prolonger cette émission, on a notre expert maison des oreilles loin du front, Cédric Lomba, spécialiste S-sidérurgie et particulièrement sur la Belgique. Donc on va peut-être pouvoir du coup, Cédric, parler un petit peu de la suite, parce que ça c'est une histoire donc, qui se passe en 1984. Alors donc t'as introduit en introduction, enfin t'as introduit oui donc au début cette histoire qui commence à la fin des années 70, au fourneau monté, démonté.
Un laminoir.
Mais... un laminoir et un train à fil, ce fameux train à fil donc de l'usine Valfil qui part en Chine. Alors, qu'est-ce qui est du coup commun à cette époque, donc en 1984, et qu'est-ce qui est différent ? C'est-à-dire, si on se place aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé ?
Donc, il y a des points communs, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est le jour d'une mobilisation contre des fermetures. Donc là, dans le bassin de Liège, on ArcelorMittal, donc, qui a pris la possession des usines belges, mais aussi des usines françaises, après une OPA sur le groupe Arcelor en 2006, a annoncé une fermeture donc de ce qu'on appelle de la phase à chaud, donc des hauts fourneaux, des aciéries, une partie de la coquerie et des laminoirs à chaud. Donc là, on pourrait dire que le panorama est assez identique, c'est-à-dire en période de crise, puisqu'on connaît aujourd'hui une crise, la solution, c'est de fermer des outils pour garantir l'avenir. Alors, il y a quand même des différences depuis l'époque. D'une part, il y a l'actionnariat, puisque en 83, on le dit un peu dans le documentaire, la sidérurgie est nationale, elle est nationalisée, elle est publique. 80% de la sidérurgie européenne est publique à cette époque-là, depuis le début des années 80, lorsque le secteur privé, voyant les déficits s'accumuler depuis les années 75, a revendu ses installations à l'État, parfois au prix fort. D'ailleurs, en Belgique, par exemple, quand Gandois arrive, là on parle de Jean Gandois, donc quand il prend la tête de la sidérurgie, il paye le prix fort, par exemple, à Albert Frère pour lui racheter les installations. Albert Frère a profité de la crise de la sidérurgie pour se faire une fortune et il en profitera encore plus quand il s'agira de lui racheter ses installations pour faire fortune par la suite dans la banque, le secteur de l'audiovisuel ou encore de l'énergie. C'est une des plus grandes fortunes européennes. Donc elle n'a pas été dommageable pour tout le monde, cette crise. Donc une sidérurgie publique à l'époque, une sidérurgie qui va être privatisée dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, il n'y a plus de sidérurgie publique en Europe. Donc ça, c'est quand même une grosse différence. C'est une industrie privée qui gère la crise. Et la deuxième différence, c'est que ce n'est pas tout à fait une crise aujourd'hui. Puisqu'il y a une augmentation mondiale de la production d'acier sans précédent depuis les années 2000. Autant elle avait stagné entre 1975 et 2000, autour de 800 millions de tonnes d'acier. Depuis, elle est passée à 1,4 million tonnes d'acier par an. Donc on voit bien l'augmentation depuis 10 ans. Sauf que la géographie s'est complètement déplacée. D'une part, on produit beaucoup en Asie, et en Chine en particulier. La moitié de la production mondiale aujourd'hui vient de Chine, alors qu'elle était portion congrue il y a 10 ans d'ici. Donc là, il y a vraiment eu un basculement. Ici, il y a un démantèlement d'une usine de Seraing vers la Chine. Maintenant, la production, elle se fait en Chine. Alors, parfois, avec quelques usines qui ont été démontées en Lorraine, dans la Roure, dans l'Utah, aux États-Unis, etc., pour être reconstruites en Chine, mais principalement par des nouvelles usines construites dans ce pays. Et quasiment une reconfiguration des entreprises, parce que ArcelorMittal, c'est la plus grosse entreprise mondiale, 10% de la production, 300 000 personnes. Elle est détenue par un Indien, donc Lakshmi Mittal.
Qui est quand même la cinquième fortune mondiale. Est-ce que tu pourrais nous revenir un peu sur l'arrivée de Mittal en Europe, du coup ? Comment ça se passe ?
Oui, alors, c'était un peu soudain pour les Européens, parce que la sidérurgie belge, elle est rachetée par Usinor en France quand elle est privatisée, à la fin des années 90. Et puis elle fusionne, Usinor fusionne au début des années 2000 avec la sidérurgie luxembourgeoise qui a été privatisée aussi, Arbed, et la sidérurgie espagnole également privatisée pour former un des plus grands groupes mondiaux à l'époque, Arcelor. Et Mittal arrive et fait une OPA hostile. Donc il rachète Arcelor à l'encontre d'Arcelor. Alors ça a été assez épique. Il y a un livre d'une journaliste qui en fait état. Donc les politiques s'en sont mêlés, Poutine, les politiques français également, belges, indiens aussi. C'était une grande affaire, les politiques européennes. Donc là, ça a mélangé pouvoir politique et pouvoir économique. Et Mittal a mis beaucoup d'argent sur la table. Il a fait intervenir des cabinets de consultants, d'avocats, d'économistes qui passaient d'un camp à l'autre. C'était quasiment une guerre fratricide au sein du capitalisme. Et puis c'était assez mal vu par l'oligarchie, notamment française, hein, Francis Mer, qui était à la tête d'Arcelor à l'époque. Vous voyez, ces cadres issus des grandes écoles en France, hein, tout imbus de leur personne, ils ont laissé de très très mauvais souvenirs, même à l'encadrement belge, par le caractère hautain, très hiérarchique, et puis voir arriver un Indien, autant dire pour eux, une espèce de... Enfin, c'est la lie, quoi, pour eux, quoi. Qui vient, qui, lui, est une espèce de Bernard Tapie. Son père avait déjà construit une aciérie en Inde. C'est une espèce de Bernard Tapie, parce qu'il a racheté des entreprises qui périclitaient. Il les a rachetées pour presque rien. Il les a remontées. Il en a revendu une petite partie. Et il a fait fortune sur ces entreprises-là. Alors, en Inde, au Canada, un petit peu aux États-Unis. Il avait pris un petit peu pied en Europe. Et puis, il arrive tout à coup en mettant sa fortune sur la table. Notamment, il y a eu pas mal de controverses, notamment parce que Arcelor a essayé de s'associer à la Russie à l'époque. Enfin, donc voilà, dans un grand combat, mais c'était un peu le chien dans un jeu de quilles, quoi. Et il a réussi à imposer son management, parce qu'il avait dit, il avait donné des gages, quoi, en disant on va quand même ouvrir le capital, on va répondre aux demandes du capitalisme financier international. En fait, assez rapidement, il place son fils à la direction de la finance dans le groupe, et puis il prend en main l'ensemble du groupe. Et alors, à Liège, par contre, on le voit arriver plutôt positivement, parce que Arcelor avait décidé de fermer toute la phase à chaud, déjà, à l'époque, en 2003. Et dès 2005, d'ailleurs, il ferme un des hauts fourneaux dont on a réannoncé la fermeture là. Et quand 2006, Mittal arrive, il dit bon, d'accord, on continue à fermer les outils, mais lui, il engage son argent. Il y a une reprise de la sidérurgie fin des années 2000, et donc il réouvre ce qui avait été annoncé fermé. Et ce qui avait été vécu comme une grande victoire syndicale. Les usines de Liège ont la particularité d'être très syndiquées, 100% de syndicalisation, hein, quasiment. Enfin, faut être à moitié marginal, à moitié fou de ne pas être syndiqué là-bas. Donc là, la Belgique est très syndiquée, et les usines de la sidérurgie liégeoise constituent le bastion fort du syndicalisme, notamment autour du contrôle ouvrier. Et donc, elles ont soutenu quasiment ce rachat. Enfin, en tout cas, elles étaient ravies du fait qu'on réouvre. Alors, c'était assez délirant aussi, parce qu'on a rappelé des gens qu'on avait pré-retraités, rappeler des intérimaires qui étaient partis ailleurs. Donc il a fallu reformer une main-d'œuvre qu'on avait dispersée dans les autres sites. Donc, comme dit comme ça, ça va vite, mais quand même quelqu'un à qui on demande chaque fois de changer d'usine, même si c'est dans la même entreprise, il faut qu'il se fasse des repères. Il arrive dans une équipe où quelqu'un avait déjà prévu de prendre un poste, il lui prend son poste. Donc on vous laisse imaginer l'ambiance, quoi. C'est difficile pour les gens de changer comme ça d'entreprise, d'autant plus que la métallurgie, on pense toujours que c'est, ou la sidérurgie, que c'est un travail assez simple, un peu rustre, quoi, où on voit les gars habillés avec des espèces de scaphandres, avec du feu partout, des grosses installations. En fait, c'est très technique, c'est bourré d'automatisme. C'est quasiment une des industries les plus techniques qui existent sur le marché. Donc ça demande des grandes compétences, notamment qu'on apprend sur le tas, quoi. On ne vient pas fondeur à l'école. Et donc, il a fallu que les gens s'habituent, quoi. Puis tout à coup, l'autre vient et réouvre les hauts fourneaux. C'est là une espèce de fête, quoi. Parce que ça laisse augurer du futur, quoi. Alors ça dure pas un an, cette histoire-là, pour qu'ils les referment, quoi. Dès lors que le marché de la sidérurgie se retourne, on les referme, et donc c'est reparti pour renvoyer les gens, pour des départs en pré-retraite, pour les renvoyer dans d'autres usines, etc., pour renvoyer des intérimaires et compagnie. On les a réouverts une nouvelle fois en 2010, et puis là, on les referme encore. Donc, vous voyez, les gens, ils doivent vivre avec cette espèce d'incertitude permanente, quoi, depuis, 30 ans, mais alors qu'il s'est accéléré depuis une dizaine d'années, quoi.
Alors justement, comment les gens vivent ce mépris là qui est complètement ouvert, enfin du capital face aux gens. Parce que dans le documentaire, on entendait aussi à quel point ces métiers avaient construit leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'on évoque à un moment l'histoire d'une culture, hein, complète. C'est pas seulement un travail, c'est une culture. Et puis même dans le vocabulaire, les gens ont complètement intégré les mots en termes de champ lexical, hein, du feu. On entend, ils disent qu'à un moment ils parlent du feu de l'enfer. Ils disent que c'était le feu de l'enfer qui les payait. Ils disent qu'ils y croyaient dur comme fer aussi. Donc c'est amusant aussi à quel point ces choses-là font partie de leur vie. Comment est-ce qu'ils vivent ça aujourd'hui, du coup, cette série de on vous reprend, on vous jette, on vous reprend?
C'est assez curieux, c'est-à-dire, bon, il ne faut pas non plus caricaturer complètement les choses. Il y a une partie des gens qui vont travailler là pour qui c'est un travail banal, qui n'en ont, qui sont pas plus investis, ça se comprend. C'est un travail aussi qui est dur physiquement. Il y a quand même beaucoup d'accidents, en particulier depuis que Mittal a repris, il y a eu une augmentation des accidents assez importante. C'est un travail qui est dur parce que c'est les feux continuent, donc ça veut dire que les gars, dans certains sites, ils font une semaine de 6 à 14 heures, 14-22, et puis une semaine la nuit, donc 3 semaines d'affilée sans un jour de congé, puis une semaine de repos. Donc bon, 6 mois, ça va, toute sa vie, c'est dur, quoi. Il paye le prix fort. Donc une partie peut être désengagée ou désinvestie de son travail, il va, le fait correctement, mais bon, c'est pas plus que ça. Mais une autre partie assez importante était très investie, comme tu l'as dit, avec une espèce, avec une forme de culture, du travail bien fait. Ils avaient été réputés pour faire un acier d'assez bonne qualité pour des usages difficiles comme les carrosseries de voitures, par exemple. Donc avec un savoir-faire maîtrisé qu'on apprend vraiment dans la durée, sur le tas, par transmission, par les pairs, quoi. Avec aussi, pour une part, ça dépendait un petit peu des sites, mais des échanges aussi avec l'encadrement, dont une partie est issue des familles ouvrières, quoi, hein, qui a pu monter et bénéficier à la fois des salaires des parents, qui étaient assez élevés parce qu'ils font les 3-8 pour des ouvriers, et puis qui a pu bénéficier de l'encadrement universitaire de la région. Donc pour eux, maintenant, c'est difficile parce que voilà, soit bon, les syndicats leur permettent de ne pas être licenciés, donc ils ont des pré-retraites et une garantie de salaire lorsqu'ils sont envoyés vers un autre site, sauf qu'ils redémarrent au début de la chaîne, ce qui est quand même difficile à vivre pour quelqu'un qui a monté au fur et à mesure et aussi en s'investissant beaucoup. Et puis, il y a quand même une sorte de perte de sens, quoi, de ce travail. Par exemple, dans les usines de Charleroi, il y a des sites où ça fait 3 ans qu'ils sont en chômage partiel, quoi. Donc ils ont 3/4 de leur salaire. Donc, bon, c'est pas formidable. Quand on avait prévu des choses, il faut se réajuster. Les salaires, comme ils étaient quand même relativement élevés, ça permet quand même de tenir. Cela dit, c'est difficile de comprendre le sens que peut avoir le travail dans cet horizon-là. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on ne va pas au travail, quoi, concrètement, et qu'on est payé pour je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas comment on peut dire qu'on appartient encore à cette entreprise dans ces cas-là. Donc du coup, c'est ça, c'est la flexibilité amenée à son point ultime. Alors ils se sont battus, hein, juste avant l'annonce de la fermeture, c'était particulièrement crapuleux, parce qu'ils se battaient pour les intérimaires. Et donc juste avant l'annonce de la fermeture, ils ont fait une semaine de grève, ce qui n'était plus arrivé depuis quand même très longtemps. Ils avaient obtenu l'intégration des intérimaires en CDI. Ce qui n'est quand même pas si courant, des CDI qui se battent pour intégrer des intérimaires, quoi, qui étaient aussi leurs enfants. Hein. Dans une région, quand même, il faut rappeler, de ces restructurations sur 30 ans, à Serein, il y a des quartiers où il y a plus de 40% de taux de chômage. Donc on est dans des régions difficiles, quoi, où la vie est difficile. Donc ils se battent, ils obtiennent satisfaction là-dessus, et 2 jours après, on annonce la fermeture et donc le licenciement des gars qu'on vient d'intégrer, quoi. Donc c'est particulièrement cynique, hein, comme milieu aujourd'hui. Et pour eux, la difficulté aussi, c'est que jusque-là, j'en terminerai peut-être par là, c'est qu'il y avait moyen de discuter avec des pouvoirs politiques locaux et des pouvoirs économiques locaux. Ils n'étaient pas d'accord, ça c'est sûr. Il y a eu des conflits durs. Ça s'est terminé par des échecs, notamment ceux qu'on a entendus dans le cas de Valfil, par exemple. Mais il y avait encore un peu de moyens de discuter. Ici, il n'y a plus moyen de discuter. Les dirigeants, là, localement, n'étaient probablement pas complètement au courant de la fermeture, en tout cas, certainement pas tous. Et puis, ils n'ont à peu près aucun mot à dire là-dessus. Ils ne peuvent pas faire valoir que l'entreprise gagne de l'argent, même si le cours de bourse a chuté, que c'est peut-être pas si grave, mais tant qu'elle n'est pas complètement déficitaire, on peut continuer à produire, etc. Bon, ce ne sont pas des arguments qui sont mis en avant par Mittal à Londres, qui est assez loin de ses usines. Il est allé une fois, quoi, depuis 5 ans dans ses usines. Enfin, c'est ça la réalité, c'est que le pouvoir est loin, quoi, maintenant.
Alors du coup, tu n'es pas venu qu'avec... ton savoir dans tes bagages, tu nous as aussi ramené un petit son, donc le 26 octobre 2011 à Serein.
Oui, donc aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation. Je disais tout à l'heure, 40 000 personnes dans les rues de Liège pour une entreprise maintenant qui a 25 000 personnes à Liège, qui a 5 000 personnes, pardon, 4 000 personnes à Liège, et qui en avait 25 000 aux années 70, hein, donc ça donne la mesure. Et déjà, le 26 octobre, il y avait déjà eu une première mobilisation à Serein, à l'endroit même des grèves, où les grèves étaient menées pour la survie de Valfil en 84. Et là, on va entendre le discours du président des métallurgistes de Liège, Francis Gomez, qui me paraît assez illustratif de la question.
Camarades, nous sommes ici plusieurs milliers, et cela quelques jours après avoir lancé cette mobilisation. Merci à vous, Liégeois, Liégeoises, et aux côtés des sidérurgistes qui se battent pour leur survie, pour l'emploi de l'ensemble des travailleurs, pour leur famille, pour leurs enfants. Ça prouve également, une nouvelle fois, que c'est ensemble que nous pourrons mobiliser l'ensemble de la riposte devant Arcelor, qui par le passé déjà nous avait condamnés. Ils ont mis Mittal avec, et ArcelorMittal est un véritable poison au public. Cette entreprise ne pense qu'à une chose, et à une seule chose, le fric. Mittal a besoin de beaucoup d'argent, pas seulement pour marier sa fille, en organisant le mariage le plus riche du siècle. Il a besoin de beaucoup d'argent, pas seulement pour se payer la maison la plus chère de Londres. Il a besoin d'argent tout simplement pour racheter un ensemble de mines, pour avoir le monopole dans la sidérurgie, pour être le maître des prix. Il veut encore plus d'argent. Si Mittal avait vécu au 19e siècle, il aurait servi de modèle de capitalisme à Karl Marx. Par ses méthodes, par son appât du gain, Mittal mérite à lui tout seul une révolution. Quand Mittal a surgi à Liège, Arcelor avait déjà décidé de fermer tout le chaud. Nous avions obtenu une mise sous cocon dans nos fourneaux qui permettait d'espérer le redémarrage un jour. Mittal, à nos yeux, était un capitaliste et un patron comme les autres. Comme les autres, les Français avaient déjà été très loin. C'est vrai qu'avec les yeux d'aujourd'hui, Mittal ou Arcelor, c'était la peste ou le choléra. On a aujourd'hui ArcelorMittal, on a donc la peste et le choléra. Nous sommes toujours là pour nous battre et faire changer les choses. Nos luttes passées, sans rebondissement, les dernières années, soyez conscients que si ces luttes n'avaient pas été structurées, organisées, beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici à hurler leur colère et à proclamer que oui, il y a encore de l'espoir. Il y a des ans, on nous traitait de fous. Tous ceux qui croyaient à la survie de la sidérurgie étaient traités de fous. Et pourtant, nous sommes encore tous là à se battre et à y croire. Parce que l'avenir de la sidérurgie liégeoise a un sens. Nous avons, par le passé, tellement prouvé nos compétences, que ce soit au niveau technique, mais également au niveau de nos luttes. Nous sommes évidemment persuadés que nous pouvons faire changer les choses. Ce que nous voulons, c'est une seule et unique chose: le maintien de notre sidérurgie totalement intégrée. Nous ne voulons rien d'autre que cela. Nous avons besoin de l'ensemble de nos outils, nos centres de recherche et de nos filiales. Nous nous battrons seulement pour ça. Disons clairement,
ceux qui disent, la direction locale, que le froid de l'avenir, ce sont des hypocrites et des menteurs. Le froid n'a pas d'avenir à Liège s'il n'y a pas à côté une sidérurgie à chaud permettant un approvisionnement cohérent. Nous avons de l'expérience. Par le passé, Mittal n'a jamais été capable de nous approvisionner. Jamais il n'a pu permettre au froid de continuer à être une entreprise normale. Nos camarades de Florange, de Dunkerque, de Sigmar nous ont dit qu'ils seraient incapables de fournir l'ensemble des besoins de la sidérurgie liégeoise. Ils nous mènent droit dans un traquenard, nous n'accepterons pas. Et puis, à ceux qui disent que nous ne nous sommes pas compétitifs, répétons-leur que nous étions l'année passée sur le haut fourneau, le meilleur haut fourneau d'Europe. Et pourquoi subitement aujourd'hui ne le serait plus? Les travailleurs ont relevé des défis. Ils ont accepté beaucoup de choses. Une flexibilité incroyable. Des sacrifices au niveau financier. Tout ça parce qu'ils croient en l'avenir de cette sidérurgie. Mittal leur avait dit, faites ceci, faites cela. Il a menti, il nous a trugés. Et aujourd'hui, il faudrait bon qu'on croie encore à sa parole. Non, Mittal, on ne te croit plus, tu es un menteur. Besoin d'une sidérurgie intégrée avec l'ensemble de nos compétences, avec des moyens financiers permettant les investissements. Des études ont été réalisées qui prouvent que nous avons un avenir moyennant quelques investissements. Et donc nous devons nous battre pour trouver des solutions permettant la survie de cette sidérurgie. Alors, tout compte fait, pourquoi ce Mittal veut-il encore rester avec nous? Qu'il s'en aille. Nous avons prouvé pendant des siècles et des siècles que les Liégeois étaient capables de faire de la fonte et de l'acier sans avoir besoin de personne, encore moins ceux qui, à travers leur politique antisociale, enrichissent la poche des actionnaires et du capital. Nous n'avons que faire de sociétés multinationales qui viennent pomper l'essence même de l'industrie, que ce soit à Liège ou que ce soit en Europe. Nous n'avons pas besoin de s'en foutre. Nous sommes capables, encore aujourd'hui, sans eux, de faire tourner notre sidérurgie. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant produit d'acier dans ce monde, mais que le capitalisme se déplace là où il y a du profit. Et si on en a plus ailleurs, ils nous abandonnent comme un Kleenex. Nous ne pourrons pas accepter ces systèmes qui permettent aux riches de s'enrichir encore plus et aux travailleurs et leurs familles de souffrir comme si l'être humain n'existait plus. Nous avons la responsabilité de mener le combat pour défendre l'intérêt des travailleurs. Nous le ferons sans aucune équivoque. Nos outils sont bons, ils sont parmi les meilleurs. Ils sont excellents. Nous devons donc le redire à tous ceux qui veulent nous entendre. Et là, le politique doit jouer un rôle. Il est beaucoup trop simple que dans le cadre de la défense du capital et de l'Europe, en quelques jours, on trouve 4 milliards de francs, alors que pour la sidérurgie liégeoise, on n'est pas capable de sortir un seul euro. C'est inacceptable. Nous revendiquons la nationalisation de la sidérurgie.
Je suis le jeune.
Nous devons nous approprier les moyens de production.
Ouais.
Nous ne faire tourner cet outil au profit des travailleurs et non pas au profit du capital. Nous allons devoir nous organiser, indiquer qu'au monde politique, au monde social, à l'ensemble des Digeois, que nous avons la volonté de réussir, que nous voulons que cette énergie vive, et nous faisons appel aux politiques qu'ils arrêtent également de nous dire que rien n'est possible.
Voilà, c'est avec ce discours de lutte, de même de lutte des classes, hein, qu'on va clore ce chapitre sur la sidérurgie, Cédric, à moins que tu aies envie de compléter. Non, pas forcément, on discutait juste pendant la diffusion de ce truc-là, et tu me rappelais quand même que ArcelorMittal donc, avait racheté ses usines en 2006, et donc pendant ces 5 années, n'avait jamais payé d'impôts en Belgique.
Voilà, donc il a gagné beaucoup d'argent, mais les pouvoirs publics ont fait des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises multinationales en Belgique, dont ArcelorMittal a pleinement profité. Et puis ils ont ajouté une petite cerise sur le gâteau, ils leur ont offert de leur acheter du CO2 pour polluer davantage. Donc ça a permis d'alimenter un peu les caisses d'ArcelorMittal.
Voilà, bon, on reviendra, j'imagine, dans les temps qui viennent pour une émission un peu plus en longueur sur la question de la sidérurgie belge avec Cédric.